Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Par ici les sorties, votre magazine culturel qui vous est aujourd'hui présenté par votre serviteur Christophe Jubien, et c'est Simon Martin qui est en régie technique. Mon invité du jour est un ami de Radio Grand Ciel, Pierre Richir, artiste peintre. Pierre, bonjour.
Bonjour.
On va se tutoyer si tu permets depuis le temps quand même.
Bah oui, ce serait bien.
Alors si je dis que tu es un ami de Radio Grand Ciel, c'est que tout simplement nous t'invitons à peu près une fois par an pour parler de ton travail. C'est un travail dont nous suivons avec passion la progression au fil du temps et que nous aimons partager avec nos auditeurs. Si tu veux bien, on va refaire dans un premier temps le voyage à l'envers, en revenir à tes commencements pour essayer de discerner les causes premières qui font que certains d'entre nous deviennent des artistes, c'est-à-dire des aventuriers des formes et des couleurs. Je crois que pour toi, l'art est une aventure à plein temps.
C'est ce qui en fait le côté passionnant, d'ailleurs. Hein. Ouais. On sait jamais trop ce qui va arriver, mais bon, il y a beaucoup d'autres domaines où c'est le cas aussi, bien entendu.
Mais je me souviens que tu avais écrit des choses sur l'art et tu employais les thèmes de audace, c'est réellement une aventure sans filet.
Ouais. Bon, maintenant, il faut se méfier de trop théoriser sur l'art aussi. Il faut que ça reste un domaine plutôt subjectif et sensible. Mais bon, si on en parle, c'est surtout sur des généralités. Et puis, après, chacun, bien entendu, peut dire ça, faire part de sa propre sensibilité. Ouais. On aime, on n'aime pas. Voilà.
Alors, quand et comment cette aventure a-t-elle commencé? Est-ce que tu as fait partie de ces enfants qui ne sont heureux qu'avec un feutre à la main?
Pas exclusivement, mais bon, c'est vrai que c'est un bon refuge, oui, c'est vrai. Depuis tout petit, donc. Et puis bon, ça m'a emmené petit à petit jusqu'à l'école Boulle.
Ouais. Ça, on va en parler parce que c'est un palier évidemment très,
c'est un tournant,
très important,
oui. C'est un tournant parce que là, on est en contact avec non seulement avec des professeurs particulièrement capables, mais aussi avec des gens de notre âge qui sont dans la même passion que nous.
Ouais. Ouais, ça, c'est important, évidemment, de partager. Ouais. Il y a une émulation qui se crée, j'imagine. Ouais. Donc toi, tu as vécu une enfance parisienne, je crois, dans un quartier d'artisans, c'est ça?
Mon père était artisan, et donc dans le 15e arrondissement, oui. Et puis on allait dans le faubourg, et il y avait encore des vieux menuisiers, patineurs, etc. Donc les odeurs, l'odeur du bois, l'odeur des vernis, etc.
Ouais. Ouais. Tu me disais que souvent, ton père allait manger avec d'autres artisans le midi, on cassait la croûte.
C'est ça.
Tu y allais aussi?
Oui. Il y avait une ambiance folle.
Et c'était important, je pense, ces premières odeurs dont tu reparles, la patine, etc., c'était important
Oui, parce que quand on est enfant et ado encore, il y a tout un mystère autour de ça, parce qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt, justement, déjà une introduction, une certaine poésie. Il y a du mystère, on ne sait pas trop comment ça évolue, etc. On ne sait pas trop d'où viennent ces gens-là, auxquels parfois il manque des doigts, etc.
C'est des figures, quoi, des personnages extraordinaires. Est-ce que tu dessinais beaucoup avant d'intégrer l'école Boulle?
Oui, depuis tout petit, ma grand-mère, elle m'a installé dans un fauteuil avec une planche sur les deux accoudoirs, et j'avais des feuilles de papier, des crayons, et je dessinais toute l'après-midi.
D'accord.
Ah, oui.
Alors, on a tous eu, à un certain âge, des élans artistiques durant l'adolescence. Puis bon, l'élan se fatigue, le quotidien reprend le dessus, et puis il faut gagner sa croûte. Oui. Sauf pour quelques-uns, pour qui l'art devient une affaire primordiale, je veux dire. Et ça a été ton cas. Tu t'en es rendu compte quand, en fait que...
Non, enfin, ça se prévoit pas, ça se planifie pas. Ça... Moi, je savais pas que j'allais faire de la peinture. Ouais. Même encore il y a 25 ans, je ne pouvais pas savoir que j'allais encore en faire 25 ans plus tard.
Ouais.
Il faut que ça se renouvelle, il faut que ce soit alimenté. Bon, après, évidemment, c'est comme un engin spatial. Je suppose qu'on gagne aussi de l'élan du départ.
Ouais.
Alors on est lancé, et puis on va le plus loin possible après. Mais il n'y a pas de fin, donc on ne sait pas où on atterrit, on ne sait pas où ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas, à mon avis.
Ouais. Ton atelier s'appelle le Skylab, comprends mieux.
et c'est pour ça que j'aime bien la chanson Space Oddity de David Bowie aussi.
qu'on n'écoutera pas, je m'empresse de le dire, parce que il y a un beau programme musical. La musique est très importante pour toi. Je me rappelle d'ailleurs on s'est connus. Bon, on va faire les choses dans l'ordre, chronologique. Oui. Je voudrais que tu nous parles justement de l'école Boulle. Pourquoi tu aurais pu choisir, par exemple, les Beaux-Arts de Paris? Pourquoi l'école Boulle?
Parce que mon père avait voulu rentrer à l'école Boulle. Donc c'était juste après la guerre et il n'a pas pu. Donc il a fait une autre école. Et comme il en parlait beaucoup, etc., et que c'était prestigieux, et c'est vrai qu'après, par exemple, mes professeurs, lui, il avait leurs bouquins.
Ah oui.
Ils avaient écrit des bouquins, et lui, il les connaissait, etc., quoi. Et bon, je n'ai pas été déçu.
Ouais. La particularité de l'école Boulle, par exemple, par rapport aux Beaux-Arts, c'est quoi?
Alors, c'est une école d'art appliqué, et là, au métier de l'ameublement. Donc, menuiserie en siège. Orfèvrerie, sculpture, etc. Enfin, au départ, c'était tout ce qui tournait autour du meuble, que ce soit des tables ou des chaises ou des fauteuils, quoi. Ouais.
Donc là, on apprend vraiment le métier, quoi.
Oui.
On peut pas tricher, on peut pas se contenter de mettre des taches de couleur sur une toile.
Si. Parce qu'on a des cours de dessin et d'art plastique. Donc là, évidemment, moi, c'était fin des années 70, début des années 80. Et donc, c'était quand même... On baignait pas mal dans l'art abstrait à ce moment-là. Donc, on faisait beaucoup d'expériences qui tendaient dans cette direction.
Si mes souvenirs sont bons, tu avais un prof de peinture qui était terrible.
Alors,
quand ça lui plaisait pas...
C'était pas à l'école Boulle.
C'était
donc le prof de mes profs, celui qui les avait formés. Donc, lui, il était à l'ANSETT, l'École nationale supérieure de l'enseignement technique. Il formait les profs, il était directeur d'études et... Oui, il était assez sévère. Ouais.
Une toile ne lui plaisait pas, il l'a acheté par la fenêtre, c'est ça?
C'est arrivé. mais bon, les gens qui étaient là étaient motivés et je pense qu'ils en ont... Ils ont remercié, quoi. Ouais. Je veux dire, l'enseignement... Bon, un prof, c'est une personnalité. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc après, il y en a qui sont plus ou moins tempérés, on va dire. Mais un prof sans goût et sans odeur, ça ne donne pas de grands résultats, quoi.
Quand tu es sorti de l'école Boulle, donc diplômé, je m'empresse de le dire, ça y est, ta vocation artistique était quand même déjà confortée?
Pas du tout, non.
Non,
non.
Alors qu'est-ce que tu as fait après?
J'ai complètement changé de direction, j'ai fait de la mosaïque. J'ai appris la mosaïque pendant 2 ans, et puis je suis devenu mosaïste, je me suis mis en compte, ça a duré 10 ans jusqu'à la guerre du Golfe, puisque c'est ce qui a fait capoter mon élan, puisqu'on travaillait beaucoup avec le Moyen-Orient, et qu'à ce moment-là, les commandes se sont pas mal effondrées.
D'accord. Donc tu travailles par exemple pour des mosquées, des choses comme ça, non?
Des mosquées, des palais, des...
Ah, oui.
On a fait des kilomètres carrés de mosaïques.
Uh-huh.
Ouais.
Finalement, c'est peut-être une chance pour le peintre que tu es aujourd'hui que...
Ah oui, j'ai appris énormément, bien entendu, parce que au niveau... Moi, je me passionnais pour les entrelacs. Alors, il y a les entrelacs celtiques et puis il y a les entrelacs des motifs de l'islam.
Ouais.
Et là, ça, c'est une culture extraordinaire. Au point de vue graphique, c'est fabuleux.
C'est très intéressant.
Ah oui.
On va écouter la musique.
Oui.
Et puis après, on va reprendre le cours de ton existence.
Parfait.
On va écouter Brian Eno, Deep Blue Day. T'as choisi les 3 morceaux qu'on va écouter. Brian Eno, très important pour toi.
Oui, c'est un magicien. Il est un peu peintre aussi. D'ailleurs, lui, il dit qu'il est non-musicien. Il fait de la musique, mais en tant que non-musicien.
En tant que non-musicien. On va écouter notre ami non-musicien, Brian Eno. Thank you. Deep Blue Day de Brian Eno. C'est un morceau qui a une histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter brièvement, parce qu'on vient juste d'en parler?
Oui. Il est sur un album qui s'appelle Apollo, donc avec co-signé avec Daniel Lanois et Roger Eno, son frère donc. Et ça, c'était la bande-son d'un documentaire sur les missions Apollo,
oui,
commandité par la NASA, oui.
Et ton atelier s'appelle Skylab, je l'ai dit tout
fois
à l'heure. je vous rappelle que je reçois aujourd'hui Pierre Richir, artiste peintre, qui expose actuellement chez lui à Saint-Ville. Il y a eu beaucoup d'expositions tout au long de cette année de Pierre. Et actuellement, vous avez la chance de pouvoir aller le voir chez lui, en fait, hein, dans son atelier qui est très beau à Saint-Ville. C'est une occasion unique de découvrir un artiste, de prendre le temps de discuter avec lui. On vous donnera les coordonnées en fin d'émission, bien évidemment. On peut peut-être passer une première couche. Hein.
Un artiste qui baigne dans son jus, c'est ça.
Donc Saint-Ville, c'est à côté d'Auneau.
Oui, c'est au canton d'Auneau. Oui.
Au canton d'Auneau.
Voilà.
Alors moi, je t'ai connu il y a longtemps, à peu près en 2002 ou 2004 peut-être, oui. Lors de ta résidence d'artiste à Chartres au début des années 2000, c'était dans un atelier situé rue aux Juifs en Basse-Ville.
Oui.
Et cette résidence d'artiste a été peut-être un moment important pour toi, parce qu'elle t'a laissé le temps de travailler au calme, de méditer. Comment tu as vécu cette période?
Moi, tous les moments sont importants, oui, mais je n'avais pas justement à cette époque-là l'atelier que j'ai aujourd'hui, et qui est à Saint-Ville, donc, puisqu'on a restauré depuis une grange assez considérable. Et c'était la première fois que j'avais un atelier à moi, parce que j'avais déjà partagé des ateliers avec d'autres artistes. Mais là, c'était la première fois où j'étais tout seul, où je faisais ce que je voulais. Donc, ça a duré 2 ans, hein. C'était le contrat.
C'était quand même assez... c'est long, finalement. 2 ans, on peut faire des choses en 2 ans.
Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Alors, j'ai fait 9 expositions dans l'atelier en 2 ans. Et... Donc, sur tous les thèmes, justement, parce que comme c'est ce que je fais est assez varié, il y avait de quoi alimenter.
Ouais.
Et puis, j'ai travaillé avec des musiciens, justement, qui sont venus jouer dans l'atelier, etc.
Ouais, toi-même, tu joues. Hein, tu avais donné un concert, je m'en souviens, devant l'atelier.
Oui.
Oui, musique un peu électronique. Mais tu chantes très, très bien. Je m'empresse aussi de le dire. c'était assez magique, des moments
avec,
assez magiques.
Avec Benoît Frêche, qui est violoniste et qui habitait Chartres à l'époque. Je ne sais pas s'il y a encore. Et oui, c'était... On a fait beaucoup d'expérimentations et c'était très bien.
Oui. Alors, donc, moi, j'ai connu cette première manière qui est très différente de ce que tu nous donnes à voir aujourd'hui. À l'époque, tu travaillais sur des figures abstraites et géométriques assez parentes de ce qu'on peut découvrir, par exemple, en ouvrant de vieux traités d'alchimie.
Oui.
Je pense que ton travail aurait beaucoup intéressé Jung, qui aurait trouvé confirmation de ses découvertes sur les symboles religieux, notamment produits par ce qu'il appelait l'inconscient collectif. D'où sortaient ces figures qui, moi, me parlaient tellement? Est-ce que ça sortait de tes lectures, de pratiques spirituelles, de ton propre inconscient? Tu n'as jamais su?
Non, je pense que ça vient de ces études auprès du professeur en question, dont on parlait tout à l'heure. Là, hein. Et puis, de petits groupes. On était 4 à l'époque. On était passionnés tous les 4 de peinture. On en parlait des nuits entières. Et donc, on se passait des idées, des réflexions, etc. Et c'est né là, oui. C'est né là. C'était une recherche assez minimaliste, en fait, sur la peinture. Et donc, l'abstrait se prête tout à fait à ce genre de démarche. Et essayer de trouver l'essentiel dans une forme, etc.
Oui. Ouais. Alors, on écoutait Brian Eno tout à l'heure. Je disais, tiens, que cette musique me faisait penser à tes fonds de toile, en fait. Tu faisais d'abord les fonds de toile, je m'en souviens. Et après, il y avait les motifs dessus, mais quelque chose d'assez mouvant, d'assez lent, d'assez contemplatif, finalement.
Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'était une recherche très... peut-être une ouverture aussi, justement. Moi, je suis assez je suis très attiré par la science-fiction, etc. J'en ai lu beaucoup sur les films aussi. 2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick, évidemment. Et donc, sans doute que ça m'a influencé et que j'ai cherché dans cette forme... une espèce d'évasion, une espèce de contemplation aussi sur des univers beaucoup plus grands.
Ouais.
Et puis après, il s'est passé un phénomène qui m'a conduit un peu à l'inverse.
Ouais, c'est ce qu'on
jusqu'à aujourd'hui.
On va en parler tout à l'heure, puisque donc tes recherches ont pris vraiment on peut dire une toute autre orientation depuis 5-6 ans. Il faut aller voir sur ton site internet pour prendre la mesure de ces changements. Hein. Tu es passé vraiment d'abord de la peinture acrylique à la peinture à l'huile.
C'est ça.
C'était par la découverte de la peinture à l'huile, tu as changé de monde, on dirait. En changeant de... Non, comment ça s'est passé?
Ça s'est fait simultanément. Alors c'est toujours un ensemble, hein, parce que... Comment dire? Ça correspond à un moment, un état d'esprit. Ça correspond à des rencontres aussi, parce que je me suis servi d'une rencontre particulière de quelqu'un qui a pu me réapprendre toutes ces techniques et me suivre et me remontrer des choses, etc. Parce qu'évidemment, quand on n'en a pas fait depuis l'école, certains...
C'est très différent, donc, à ce point.
Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Et puis, la première phase a été très douloureuse, parce que j'ai l'impression, en fait... c'est au figuré, hein, mais d'être tombé de mon piédestal... Donc, comme si j'étais dans le cosmos et que c'était super chouette, et de descendre dans les souterrains.
Quoi. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. C'est ce qu'on découvre d'ailleurs sur le tableau, c'est l'exploration de la part sombre, de ta part sombre, de la part sombre inexplorée jusqu'alors. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui donne une force absolument extraordinaire. Je me souviens notamment de ces
Des rhizomes.
Ouais, des rhizomes, c'est très impressionnant. Et on quitte le spectateur aussi quitte sa zone de confort. Hein.
Ah oui, là on peut pas le nier, là. C'est sûr.
Tu es passé donc aussi donc de l'abstraction à la figuration et des symboles immémoriaux à l'actualité du monde aussi. J'ai l'impression que le monde aussi a fait irruption dans ta peinture.
Alors, quelque part, quand même, c'était plutôt un retour à la figuration. Parce que je pense que si j'avais pu faire ça dès le départ, je me serais lancé là-dedans dès le départ. Simplement, j'ai baigné dans un milieu qui m'a influencé... Dans la filière, si j'ose dire, abstraite. Ouais. Enfin, non figurative, je préfère. Et donc, je me suis trouvé assez curieux et assez intéressé dans le fait de reprendre la figuration, parce que d'un seul coup, j'ai compris que j'allais pouvoir dire certaines choses que je ne pouvais pas dire avec le non figuratif.
Ouais.
J'allais pouvoir montrer d'autres choses, dire d'autres choses, parce que c'est dire, hein, c'est une forme d'écriture.
Oui. Hein.
Quand on peint, on dit des choses qui ne peuvent pas figurer dans un ouvrage littéraire. On peut pas, c'est pas du tout la même expression. Et je trouvais ça très très intéressant. Ouais.
Tu as repris possession de toi-même aussi d'une certaine manière. Est-ce que c'est cet enjeu aussi finalement
à travers la peinture. Ça fait partie de la progression, donc du fait de grandir et d'acquérir un peu plus de maturité par l'expérience. Puisque, de toute façon, c'est un enrichissement. Hein, ça vient... Et puis, ça ne veut pas dire que j'ai tout lâché du reste. Ouais. Tout ce que j'ai fait auparavant me sert et me resservira, etc.
Ouais,
et réalimentera à nouveau.
Ouais. D'anciennes figures commencent à refaire leur apparition dans tes dernières toiles, notamment.
Oui, je ne pensais pas que ça allait être possible.
Ouais.
Mais apparemment, je suis en train de trouver des clés pour que ça le devienne.
On va écouter un second morceau de musique de Sinner the Air de Cocteau Twins. C'est encore un groupe que tu aimes beaucoup.
Oui. Ouais, tout à fait.
On va écouter tout de suite. Thank you. C'était un court extrait, vous m'en excuserez, de Cocteau Twins, de Sinner the Air. C'est le genre de musique que tu écoutes en travaillant ? Tu travailles toujours en musique ?
Toujours. À l'atelier, c'est sur les enceintes. Et puis, quand je vais à l'atelier libre, où il y a plus de monde, par exemple à Dourdan, eh bien, j'ai mon petit baladeur avec mes écouteurs. Ouais.
Chers auditeurs et auditrices, vous venez d'entendre la voix de Pierre Richir, artiste peintre qui expose actuellement chez lui à Saint-Ville dans un lieu magnifique, le Skylab. Et vous allez découvrir vraiment une démarche picturale assez renversante. En tout cas, moi, c'est l'effet qu'elle produit chez moi. Il faut absolument aller voir cet artiste, à mon avis, important aujourd'hui. Voilà, on va continuer à parler de ta peinture. Pierre, moi, je voulais savoir, on disait à l'instant que finalement, une certaine forme d'angoisse ça fait irruption dans ta peinture qui était plutôt autrefois sereine. Est-ce qu'elle vient aussi de l'état du monde ?
Il y en a, mais il n'y a pas que ça, parce que pour moi, il n'y a pas de côté négatif ou positif dans les œuvres d'art. Parce que je vais prendre un exemple, l'opéra, par exemple. Des opéras très connus, Rigoletto de Verdi ou Don Giovanni de Mozart. L'histoire est absolument terrifiante. Et pourtant, c'est le résultat, c'est une splendeur. Ouais. Donc, il n'y a pas un message direct. C'est pas pour dénoncer, c'est pas pour... pas du tout. Mais simplement, on se sert du côté esthétique. Ouais. Voilà, c'est l'esthétique qui importe, je pense. Et je relisais justement Hegel à ce sujet, il décrit beaucoup mieux que moi d'ailleurs... ce genre de phénomène, et des philosophes contemporains le font très bien aussi. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la philosophie, parce qu'ils savent, ils arrivent à saisir des mécanismes et à les décrire. Ouais. Donc, mais la notion d'esthétique, est très intéressante. Si on prend une scène de bagarre, c'est pas pour montrer de la violence, mais simplement que le mouvement, l'attitude des personnages vont nous permettre, nous, artistes, de restituer une esthétique du corps humain, de son importance dans l'espace, etc. etc. Ouais. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là que...
Ouais. Moi, il y a une chose qui me plaît beaucoup aussi dans ton travail, c'est son ouverture à la culture populaire. Il t'arrive de glisser dans des tableaux, des images de films, je pense notamment à la célèbre scène de moto de Steve McQueen dans La Grande Évasion, la fameuse série Le Prisonnier, que les gens de notre âge ont bien connu, bien évidemment. Enfin bref, est-ce que pour toi, donc, la culture populaire a des choses à nous dire tout autant que la culture majuscule, si j'ose dire ?
Oui, parce que quelque part, pour une génération, ou même plusieurs parfois, ça peut prendre une valeur de mythologie. Et ces personnages sont presque des archétypes, en fait, comme on peut prendre des héros de l'Antiquité, comme ça, des grandes épopées. Ouais. Donc oui, Steve McQueen, dans La Grande Évasion. Il y a aussi des personnages dont je me suis servi plusieurs fois et dont je vais me resservir à nouveau. Ce sont les députés ukrainiens qui se battent au Parlement. C'est arrivé il y a 4 ou 5 ans. Et donc, ils sont entremêlés dans des postures complètement inhabituelles, etc. Ouais. Donc, c'est assez drôle en même temps.
Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle quand même de... Parce que tu es revenu à la figuration, mais c'est une figuration qui est quand même très... La réalité subit, oui. Je veux dire, une forme de distorsion. Il y a un côté parfois hyper réaliste, et puis à côté, l'image se trouble. On est presque à basculer dans l'angoisse et dans le cauchemar, parfois. Bon, là, je...
Ça peut être dans le rêve aussi.
Et dans le rêve aussi.
Ça dépend du spectateur. Ouais. C'est lui qui fait l'histoire.
Projette. Oui.
Et justement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui adhèrent complètement et puis d'autres qui sont repoussés totalement. Quoi. Ouais. Donc il y a les deux, mais personne ne reste indifférent. Et c'est pour ça que je ne pense pas que le monde lui-même soit une dénonciation du monde, et même s'il y a tout ça, bien entendu, parce qu'on vit dans le même monde et qu'on s'aperçoit que...
Il y a des choses qui ne vont pas, à force.
Oui, ouais. C'est pas celui qu'on souhaitait. Ouais. Voilà. Pour être... Mais moi, je suis plutôt du côté... Mais là, tu vas me comprendre, du côté de la poésie. Ouais. C'est plutôt ça que je recherche. Et je dirais que je voudrais introduire de l'érotisme dans un monde pornographique.
C'est très
je trouve notre monde pornographique. Ouais. Parce qu'on en montre trop. On veut tout maîtriser, tout contrôler, etc. Et en fait, ça tue la poésie. Alors que suggérer les choses, garder le mystère, etc., je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant parce que ça permet à l'imaginaire de se développer. Et enfin, tout
à l'heure. On dit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les enfants, l'imaginaire des enfants est très, très abîmé. Enfin, non pas abîmé,
bridé.
Mais bridé, terriblement ouais, bridé, par les, ouais. Notamment par les jeux vidéo. Hein, ouais, ouais. Alors, il nous reste très très peu de temps. J'aurais voulu quand même qu'on parle de deux portraits que tu as fait. Tu as fait une série de portraits, notamment un de Deleuze et de Laurie Anderson, qui sont absolument vraiment magnifiques. Pourquoi ces deux personnages, Gilles Deleuze, en philosophe et
oui, voilà, bien sûr. Alors la série n'est pas terminée. J'aimerais me faire un petit panthéon. Laurie Anderson est une personne vraiment lumineuse, et c'est vrai que. Bon, je l'ai vu en concert, j'ai suivi son parcours de musicienne, etc. Et puis ses interviews aussi, parce qu'elle elle a énormément d'humour, elle est très drôle. Et en fait, elle aussi, elle parle de choses dramatiques, mais avec un accent truculent et humoristique. Ouais. Donc ça correspond bien à l'état d'esprit que je recherche aussi. Ouais. Et puis dans une interview, alors il y a une particularité sur les portraits, c'est qu'en fait, ce ne sont pas des personnages qui posent. Mais Deleuze ou Laurie Anderson, j'ai saisi une image dans une interview, dans une vidéo. Et j'ai choisi le moment que je voulais,
que tu voulais capter,
représenter. Ouais.
Voilà. On arrive à la fin de l'émission. Pierre, on redit le lieu où ça se trouve. Quand est-ce qu'on peut venir te voir
Alors jusqu'au 3 juin sur rendez-vous, on peut me téléphoner pour prendre un rendez-vous dans la journée.
Donc le numéro de téléphone est le
06 01 88 24 22.
Voilà.
Et sinon, samedi, dimanche, lundi prochain, c'est porte ouverte.
C'est porte ouverte. Voilà. Et donc, on peut t'appeler, redis une dernière fois le numéro de téléphone.
06 01 88 24 22.
C'était Par ici les sorties avec Pierre Richir. Merci à Simon en régie et on se retrouve dans 4 semaines pour de prochaines aventures. You're so chic, do you ever love me?